Bienvenue sur la radio Dynamique.
Bonjour à tous, c'est la web radio dynamique du collège Latillier. Aujourd'hui, je suis avec Émilie.
Salut.
Aloïs.
Salut tout le monde.
Kenzo.
Salut les gens.
Et les deux techniciens. On va commencer par la chronique d'Émilie sur la littérature.
Avec toi.
Salut, donc je vais vous présenter ma chronique à travers les pages. Je suis un quoi ? On connaît tous cette phrase culte dite par Harry Potter qui marquera le début d'une longue aventure. Écrite par J.K. Rowling, de son vrai nom Joanne Rowling, elle fut inspirée lors d'un voyage en train en 1990. Le premier tome fut sorti en 1996 et rencontra un succès immédiat. Et oui, Harry Potter a déjà 25 ans. Le dernier tome fut sorti en 2007 et le premier film sorti en 2001. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui apprend qu'il est en réalité un sorcier. Il va donc quitter sa vie avec les Dursley, ce qui n'est pas pour lui des pères, pour se redécouvrir avec des personnes comme lui à Poudlard, une école de sorciers. Mais son passé n'engage pas moins une sombre histoire. Mais qui est donc ce mystérieux mage noir et que lui veut-il ? C'est ainsi que l'on se retrouve plongé dans les aventures d'Harry Potter. Le succès du livre obligea J.K. Rowling à continuer sa série en 7 tomes. Mais en 2016, elle fit paraître un 8e tome, Harry Potter et l'enfant maudit. Cela se passe 19 ans après la bataille de Poudlard. Harry et Ginny sont mariés et ont 3 enfants. Mais les forces du mal sont de retour et Albus, le deuxième enfant de Harry et Ginny, va devoir affronter le poids d'un héritage qu'il n'a jamais voulu. La série a tellement de succès que de nombreux produits dérivés sont sortis comme des vêtements, des posters, des lampes, des chaussons, tout. Mais J.K. Rowling a aussi sorti d'autres séries complémentaires comme 3 livres de la bibliothèque de Poudlard, Le Quidditch à travers les âges, Les contes de Beedle le Bard, ainsi que Les animaux fantastiques Vie et Habitat. Ce dernier livre est écrit par Norbert Dragono, qui est le héros d'une autre série créée par J.K. Rowling, Les animaux fantastiques. Celle-ci se passe en 1926, à l'époque où Dumbledore n'était encore qu'un professeur de métamorphose. Norbert élève des animaux fantastiques, comme des demi-guises, des oiseaux tonnerres, des okamis, des nifleurs, etc. Peut-être que vous rêvez de les rencontrer, mais croyez-moi, il vaudrait mieux pas, car ils s'intéresseraient d'un peu trop près à vos porte-monnaies. Mais il va donc devoir retrouver qui fait des ravages à New York et qui menace de révéler au Moldu l'existence des sorciers. Mais bref, revenons au sujet principal. Harry Potter est sans aucun doute l'un des livres les plus appréciés du monde, en étant 5e dans le top 10 des livres les plus vendus au monde. Il est vendu à plus de 450 millions d'exemplaires. Autant vous dire que Harry Potter est et restera toujours un classique de la littérature pour tous les âges, que vous soyez petit ou grand. Merci Émilie pour cette chronique. Quelqu'un a des questions ou pas ? Vas-y, Aloïs.
Oui, c'est pour dire, ils sont en train de sortir une bande d'annonce d'un film sur Harry Potter, après pour les 25 ans.
Alors ça, je l'ai vu. C'est une émission qui sortira le 1er janvier 2022, où on va retrouver plusieurs acteurs de Harry Potter, s'ils peuvent venir, et qui vont faire une émission un peu spéciale. Alors on n'en sait pas beaucoup, il y a une bande d'annonces, mais on ne sait pas vraiment ce qui sera concret. Mais on sait que dans une partie de l'émission, ils vont parler un peu des souvenirs des tournages d'Harry Potter, de ce qui s'est passé et tout. Mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, et ça sortira le 1er janvier 2022.
Ok, merci.
Kenzo a aussi une question.
Émilie ? Le dernier tome, il s'appelle pas L'Enfant Maudit ?
Alors si, mais c'est un 8e tome qui est sorti sous la forme d'une pièce de théâtre. C'est pas un vrai livre bien écrit, c'est une pièce de théâtre qui est jouée d'ailleurs en Angleterre. Mais oui, c'est le 8e tome qui est sorti en complémentaire de la série.
Aloïs, une question ?
Du coup, tu nous as dit que c'était le 4e livre le plus vendu. Est-ce que tu sais quels sont les autres livres les plus vendus ?
Alors, c'était le 5e. J'en ai pas vraiment pris connaissance. Mais je sais que l'un d'entre eux est le livre donc, du Petit Prince de Saint-Exupéry, Et il y en a quelques autres, mais je sais, c'est plus de la littérature pour adultes. Et je ne les ai pas vraiment en lu, non.
Ok, merci.
Merci, Émilie, pour cette chronique. On va passer à la chronique d'Aloïs. Aloïs, c'est ton tour.
4, 3, 2, 1, 0. Mission. And liftoff. Godspeed, endeavor, and crew.
Bonjour et bienvenue pour ma rubrique sur le thème du space tourisme, qui en français signifie le tourisme spatial. Qui n'a jamais rêvé de partir dans les étoiles ou sur la Lune ? Aujourd'hui, on va parler des rares entreprises qui développent le tourisme spatial. Et comment parler de tourisme spatial sans évoquer SpaceX, la grande entreprise d'Elon Musk, qui envoie des astronautes dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale. SpaceX, en collaboration avec Dare Moon, vont envoyer une capsule faire le tour de la Lune. Alors si vous voulez réserver, c'est trop tard. La place a déjà été prise par un milliardaire japonais qui prévoit de faire le tour de la Lune en compagnie de 10 artistes. Le projet ainsi que la capsule sont encore en cours de développement. Ils sont donc pas trop près de sortir. Dans les concurrents de SpaceX, on retrouve Virgin Galactic qui vous propose de monter dans un vaisseau attaché à un avion qui vont vous emmener à 30 km au-dessus de la Terre. À ce moment, le vaisseau va se décrocher de l'avion et va tomber en chute libre pendant environ 10 secondes. Puis les moteurs du vaisseau vont s'allumer et vont vous propulser à 80 km d'altitude, vous offrant 5 minutes d'apesanteur et vous lancer quelques minutes pour contempler la vue sur la Terre. Tout ça pour le prix de 250 000 dollars. Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, vous propose eux de décoller directement depuis le sol, dans une fusée. Vous allez être propulsé à 100 km d'altitude pour vous proposer une vue imprenable et 5 minutes d'apesanteur. Jeff Bezos assure avoir gagné 100 millions de dollars grâce aux réservations, ce qui représente un total de 80 millions d'euros. Bien. On a vu les rares entreprises qui développaient le tourisme spatial et on en a conclu que pour aller dans l'espace, il faut être énormément riche et que tout ça fait énormément mal à la planète. Car pour faire décoller des avions ou des capsules ainsi que des vaisseaux spatials, il faut du kérosène. Et ça, ça coûte énormément cher, surtout en ce moment avec la crise du pétrole. Et ben merci, c'était ma chronique.
Merci à Louis pour cette chronique. J'ai juste une question. Quand tu as parlé que c'était pas bon pour la planète, pourquoi les astronautes vont... Parce que j'ai entendu qu'ils vont, ils sont en train de plus en plus aller sur la Lune ou faire des voyages spatials. Pourquoi ils le,
ben, ils pourquoi le font ? Pourquoi ils continuent ?
Oui.
Oui, ok. Alors c'est vrai que c'est une très bonne question et c'est une question que je pense beaucoup de personnes se posent parce qu'effectivement ça coûte énormément cher d'envoyer des astronautes déjà juste dans l'ISS et déjà de les faire décoller depuis la Terre, depuis une fusée. Hein, c'est plusieurs... plusieurs millions d'euros et même plusieurs centaines de litres de kérosène. Enfin, c'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais juste pour les envoyer, il serait qu'on peut se poser cette question. Bah, la réponse, elle est toute bête, c'est tout simplement pour aller faire des expériences. Tous les astronautes qui sont dans l'ISS ont une mission. Et moi, je suis un peu contre le tourisme spatial pour la simple et unique raison qu'on ne peut pas envoyer des personnes dans l'espace en disant ils y vont pour voir la Terre, ils y vont juste pour que ça soit beau. Non, il faut qu'ils... Maintenant, je pense, avec le pétrole qui devient de plus en plus rare, qui devient une énergie très coûteuse, maintenant, il faut qu'il y ait une raison concrète. Et c'est pour ça que maintenant, même aujourd'hui, on prévoit d'aller sur la Lune. Et je pense que la Lune et Mars, ça reste très intéressant d'un point de vue scientifique, notamment si on arrive à faire des bases là-bas et à laisser des astronautes en autonomie. Je sais pas si tu comprends.
Merci. Kenzo a une question.
Dis-moi, est-ce que tu sais qui sont les artistes qui vont y aller du coup ?
Alors, donc, c'est un milliardaire japonais. J'ai décidé de ne pas prononcer son prénom et son nom parce que, honnêtement, je ne sais pas lire le japonais. Donc, ça. Et donc, ça va être 10 grands artistes. On n'a pas encore les noms. C'est très intéressant. J'aurais bien aimé les mettre. Mais ça va être des très grands artistes très connus et sûrement des japonais et des chinois.
Émilie, as-tu une question ? Alors, tu dis que rien que pour aller dans l'ISS, c'est très très coûteux et on utilise beaucoup de kérosène. Alors, à ton avis, combien ça a dû coûter quand ils ont envoyé Persévérance sur Mars ? À ton avis, qu'est-ce que ça fait ? Ça a dû prendre beaucoup de... Pour aller sur Mars, ça a dû prendre beaucoup de kérosène, beaucoup coûter, etc.
Et même pour aller sur la Lune, hein, notamment avec la fusée Saturn V, c'était une fusée énorme et immense, qui était très coûteuse, elle était géante, Saturn V, Et c'est vrai que c'est des missions comme ça, pour aller sur Mars, même pour envoyer juste un robot à la persévérance, même pour envoyer juste un robot, ça coûte énormément cher. Et voilà, et maintenant c'est très concluant parce qu'on a des retours de persévérance qui trouvent des anciennes traces d'eau sur Mars. Et donc il y a peut-être eu une trace de vie. Alors quand on parle de vie dans l'espace, on s'imagine tout de suite des petits bonhommes verts et des extraterrestres. Non, quand on dit de la vie, c'est surtout maintenant des molécules, voilà.
Bah merci Aloïs pour cette chronique, tu nous as appris beaucoup de choses et je vais en servir un peu pour ma chronique, moi aussi, je vais te la piquer.
Ça va être une chronique sur quoi? On spoil pas.
Je spoil pas aux ceux qui vont le lire.
Tu me diras à la fin.
Et je vous passe à la chronique de Kenzo.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une série que j'ai particulièrement aimée sur Netflix, ça s'appelle Le jeu d'Adam. C'est une série américaine qui raconte l'histoire d'une jeune fille orpheline. Un jour, elle voit le concierge jouer aux échecs, puis elle sèche les cours pour aller jouer aux échecs avec le concierge. Et 6 ans après, elle se fait adopter par un couple de pauvres. Un jour, elle voit dans le journal un tournoi d'échecs, puis y participe. Va-t-elle gagner ou perdre? Faut regarder la série pour le savoir. Et c'est à retrouver sur la plateforme Netflix, et je vous conseille vraiment de le regarder, moi j'ai adoré.
Merci Kenzo pour cette chronique, est-ce que quelqu'un... Vas-y à Louis.
Et du coup, est-ce que dans l'histoire, t'as appris à jouer aux échecs?
Eh bien, je vais dire limite, hein. Je vais pas te mentir, je sais juste comment se déplace la tour.
Ah ouais, d'accord, donc, donc t'es pas prêt de faire un tournoi.
Émilie, vas-y.
Mais du coup, moi j'ai vu un peu la bande-annonce du jeu de la dame sur Netflix. Mais du coup, elle a quel âge quand elle va jouer aux échecs? Elle est très jeune ou un peu âgée quand même?
Elle a entre 13 et 15 ans.
Et voilà, c'est la fin de cette émission de la radio dynamique du collège Latillé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. À plus.